Bonjour Violaine Guérin.
Bonjour.
L'application Stop Covid est disponible depuis hier midi. Il s'agit, rappelons-le, d'une application qui doit permettre à chacun d'être prévenu par son smartphone s'il a été en contact avec une personne porteuse du Covid-19. Est-ce que vous pensez que cet outil va être utile?
Bien, écoutez, là, je lisais ce matin quelque chose qui confirme un peu notre impression, c'est-à-dire un message du syndicat des biologistes qui fait état qu'il ne rencontre plus quasiment de patients atteints du Covid. En ville, nous ne rencontrons plus non plus de patients depuis plusieurs jours, voire semaines. Donc, je pense que cette application ne sera sans doute pas très utile. Et puis, surtout, nous avions alerté sur le fait que confier ces données à une base de données dont on ne sait pas très bien comment elle va être managée, etc., pouvait être dangereux pour la liberté individuelle.
Pour être alerté par cette application, il faut avoir été en contact pendant au moins 15 minutes avec une personne porteuse du virus. Sur quoi repose ce délai?
Alors là, je ne sais pas.
On peut se dire qu'on peut être contaminé en moins de 15 minutes.
Exactement. Ouais. Et il y a beaucoup de choses surprenantes, vous savez, dans la gestion de la crise. Et là, il n'y a pas vraiment de rationnel scientifique sur ce paramètre.
D'un point de vue médical, Violaine Guérin, est-ce qu'il vous semblait nécessaire d'imposer autant de contraintes sanitaires aux bars et restaurants qui ont pu rouvrir depuis hier?
Je dirais qu'il n'y a pas qu'aux bars et aux restaurants qu'il est étonnant d'imposer autant de contraintes sanitaires. La crise, normalement, aurait dû être, à mon sens, gérée autrement, à savoir qu'il eût été utile de confiner les malades et pas de confiner une population saine. Donc, tout est extrêmement interpellant et je pense qu'il va falloir reprendre la crise depuis le départ pour comprendre toutes ces mesures qui ont porté atteinte aux libertés individuelles. Et actuellement, dans les restaurants et effectivement les bars et encore tous les secteurs qui sont bridés, comme le monde du spectacle, etc., on se questionne beaucoup, en fait.
Pour vous, aujourd'hui, le scénario d'une deuxième vague, qui a beaucoup été évoqué il y a quelques semaines par un certain nombre de vos confrères, ce scénario n'est plus crédible?
Alors, deuxième vague, il faut vraiment bien préciser de quoi l'on parle. Si c'est un rebond épidémique, pour le moment, il n'a pas l'air de se passer. Et si on écoute des gens qui sont spécialistes des épidémies virales, a priori, cette fameuse courbe en cloche dont on parle devrait conduire à un arrêt de cette première épidémie. Après, la question va être, est-ce que cette épidémie qui peut repartir à l'automne va le faire ou pas? Puisque pour certains virus, on voit ce type de reprise, comme cela a été pour le SRAS, qui est un virus, dont l'agent est un virus qui est classifié comme le SARS-CoV-2, c'était reparti avec un degré extrêmement moindre en Asie pendant 2 années suivant la première épidémie. Donc je pense que la connaissance du SARS-CoV-2 est encore trop préliminaire pour pouvoir affirmer cette assertion.
Vous êtes à l'origine, Violaine Guérin, avec quelques-uns de vos confrères, de la création du collectif « Laissons les médecins prescrire ». Tout d'abord, ce mouvement est né de l'interdiction signifiée aux médecins de prescrire l'hydroxychloroquine, c'est bien ça?
Alors, c'est tout à fait ça. Le mouvement est né après le décret du 26 mars. Après, j'insiste bien sur le fait que le mouvement concerne la liberté de prescription. On n'est pas spécifique de l'hydroxychloroquine.
Oui,
les médecins mais
c'est cette interdiction qui a déclenché.
Tout à fait. Voilà. C'était un choc parce que c'est la première fois dans l'histoire de la médecine française, depuis des siècles, qu'il y a une atteinte à la liberté de prescription des médecins.
Alors, sur l'efficacité de ce traitement, donc le traitement du professeur Raoult, hydroxychloroquine plus azithromycine, dès le stade précoce de la maladie, on assiste depuis des semaines à un déchaînement de passion entre les pros et les anti. Est-ce qu'il y a des précédents dans l'histoire, et peut-être dans l'histoire relativement récente de la médecine?
Alors la médecine, oui, il y a régulièrement des bagarres, même au niveau scientifique. Hein, on en a des très très anciennes. Donc ça, c'est pas un phénomène nouveau. Après, ce qui se passe là, c'est qu'on a des mélanges entre de la science, de la politique, entre des intérêts. Donc ça, c'est assez nouveau, parce que des bagarres sur des positions scientifiques, c'est même ça qui fait progresser la science, souvent. Mais là, il y a des intrications un petit peu curieuses.
La semaine dernière, une étude a été publiée par The Lancet, l'une des plus importantes revues de la littérature médicale. Elle se voulait sans appel et concluait que non seulement le traitement du professeur Raoult n'était pas efficace, mais qu'il était dangereux, notamment sur le plan cardiaque. Or, depuis quelques jours, cette étude est remise en cause par de nombreux médecins, y compris d'ailleurs par des adversaires du professeur Raoult. La revue The Lancet elle-même a mis en garde hier contre les conclusions de l'étude qu'elle a publiée. Vous faites partie de ceux qui avaient mis en doute et en cause la méthodologie de cette étude. Est-ce que vous pouvez, en termes simples évidemment, nous expliquer ce qui ne va pas, selon vous, dans ce travail ?
Alors, on a été effectivement dans les premiers à souligner les problèmes méthodologiques. Déjà, la première chose qui nous avait sauté aux yeux tout de suite, c'était que les groupes n'étaient pas comparables, donc on tirait des conclusions sur des groupes non comparables. Le deuxième point majeur était que nous avions relevé qu'il y avait une surreprésentation de pathologies cardiaques dans la population, particulièrement celle traitée. Donc ça nous surprenait énormément. Et puis, il y avait un enchaînement de choses quand on connaît des études multicentriques comme ça, avec un grand nombre de patients, ce qui est mon cas puisque j'ai dirigé des grandes études au niveau mondial. Beaucoup, beaucoup de choses étaient interpellantes, entre autres le nombre d'hôpitaux nécessaires pour récupérer les données, les panels selon les pays, etc. Donc méthodologiquement, c'était extrêmement surprenant aussi au niveau de l'infrastructure de l'étude. Et les suites, voilà, nous ont permis de comprendre qu'il y avait un vrai problème. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce que c'est vraiment une étude ou c'est une compilation de données qui met gravement en danger, en tout cas, la science, hein, de cette manière de fonctionner, oui. Et puis qui compromet l'image du 27, hein.
Et cette étude avait été qualifiée, je cite, de foireuse par le professeur Raoult, qui hier en a remis une couche en disant qu'elle avait été réalisée par les pieds nickelés. Merci Violaine Guérin, merci, bonne journée.
Merci.